Si je vous dis le psaume 119, qu'est-ce que ça vous évoque ? Voilà, j'ai entendu différentes choses. Le plus long psaume de la Bible, c'est vrai. Parfois, quand ça ressort, ça, c'est le psaume le plus long de la Bible. Presque un petit peu une connotation un peu péjorative, presque un peu assommant comme psaume. Une autre réaction qui vient en général pas longtemps après, c'est qu'on a l'impression que c'est assez répétitif. Il y a beaucoup de choses qui se répètent dans ce psaume. Je pense l'avoir entendu aussi. Il m'a semblé entendre que c'est un psaume qui parle de la parole de Dieu. On va y revenir. Peut-être pour d'autres personnes encore, psaume 119, ça va rimer avec ces versets-là. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ou le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ce matin, j'aimerais vous proposer une lecture, une approche transversale de ce psaume. Dans un premier temps, et ça sera très rapide cette partie-là, une approche par rapport à la forme du psaume, et puis dans un second temps, et c'est ce qui occupera davantage notre temps, une approche quant au sens et au contenu de ce psaume. On va commencer donc par la forme, et ça a déjà été dit, c'est le plus long psaume de la Bible, en même temps que c'est le chapitre de la Bible le plus long. Il y a 176 versets. Un psaume, si vous l'ouvrez dans votre Bible, vous allez voir, tous les 8 versets, il y a une petite coupure. En fait, ce sont des strophes, 22 strophes au total, qui contiennent chacune 8 versets. Et plus précisément encore que cela, les 8 versets de chacune des 22 strophes commencent toutes par une même lettre en hébreu. Par exemple, si on prend la première strophe, il n'y a pas besoin de savoir lire l'hébreu, alors qu'il se lit de la droite vers la gauche, c'est pour ça que vous avez les numéros de versets à droite. Il n'y a pas besoin de savoir lire l'hébreu pour voir que la première lettre est tout le temps la même pour la première strophe. Et c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Si je prends la deuxième strophe, pareil avec la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Et ainsi de suite comme cela, tout au long des 22 strophes, jusqu'à donc la 22e, où on a la dernière lettre de l'alphabet en hébreu, qui contient, vous l'avez compris, 22 lettres. On appelle cela un psaume acrostiche. Alors évidemment, cette manière de présenter les choses, on ne peut pas la reproduire dans la traduction en français. C'est la raison pour laquelle certaines traductions de la Bible, comme par exemple la Nouvelle Bible Second, va avoir au début, ou alors dans la marge, au début de chacune des 22 strophes, la lettre hébraïque qui est au début de chaque verset de la strophe en question. Ça, c'est pour une présentation rapide quant à la forme. Maintenant, quant au fond, cette approche transversale quant au fond. Si je vous demandais quels sont les mots qui reviennent le plus souvent dans ce psaume 119, il y a de fortes chances que la réponse, ce soit des mots synonymes de parole de Dieu, la loi, les commandements, les préceptes, etc., etc. Et c'est vrai parce que dans quasiment chaque verset de ce psaume, il y a des mots qui sont en fait synonymes les uns des autres, 8 mots synonymes pour désigner justement la loi, la parole, les commandements, les préceptes, les ordonnances, les prescriptions, les statuts, la parole, il y a un deuxième mot pour la parole, il y a bien sûr le mot loi aussi. 8 mots différents qui vont peut-être parfois varier un peu selon les traductions, mais ça, c'est pas grave. Il n'y a pas forcément nécessité de rechercher une signification derrière chacun de ces 8 mots pour parler de la parole de Dieu. Nous sommes dans le style poétique, c'est un psaume, et l'une des caractéristiques de la poésie dans l'hébreu, c'est ce que l'on appelle le parallélisme des idées. Le parallélisme des idées, contrairement à notre poésie en français, où à la fin de chaque vers, on a des rimes, eh bien, dans la poésie en hébreu, ce sont les idées qui vont rimées entre elles. Et donc, d'un verset à l'autre, on va avoir des mots qui vont être synonymes, des expressions qui vont être synonymes les uns les unes des autres, et pour faire rimer un peu cela. C'est pour ça qu'il y a souvent cette répétition, et on a l'impression que c'est un psaume très répétitif. Nous aurons d'ailleurs l'occasion cette année de reparler de ce parallélisme des idées, puisque dans les rencontres de quartier qui reprendront au mois d'octobre, nous aborderons le livre des Proverbes, un livre poétique lui aussi. Ici, dans le psaume 119, le psalmiste, donc l'auteur de ce psaume, fait rimer les idées beaucoup, on le voit, autour de la parole de Dieu. Mais ceci étant dit, si on s'arrêtait à cette analyse, on raterait quelque chose de vraiment important, d'essentiel même dans ce psaume. Car quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ces 8 mots différents qui apparaissent tous chacun entre 20 et 25 fois chacun dans le psaume ne sont pas finalement les mots qui sont les plus utilisés. Les mots les plus courants sont de loin les pronoms personnels qu'on a à la première personne, je, moi, mon, mais, ou bien la seconde personne, tu, toi, t'es, ton. Dans ce psaume 119, on voit que les choses sont dites de manière très personnalisée. Ce psaume, en fait, est une prière personnelle qui nous fait entrer dans l'intimité de ce que la personne qui s'exprime, d'ailleurs on ne sait pas qui c'est, ça nous fait entrer dans son intimité, dans son cœur, dans ce qu'elle dit à Dieu. Elle va dire à Dieu ses joies, son adoration, sa louange, mais aussi elle dira ses craintes, ses besoins, ses requêtes, ses peurs, ses tracas, ses luttes, souvent difficiles, parfois aussi ses intentions, etc. Et donc, le psaume 119, avant d'être une éloge à la parole de Dieu, c'est d'abord le cri du psalmiste qui s'élève vers Dieu. Parce que l'auteur nous ouvre son cœur ici, il nous fait entrevoir ce qu'il vit au plus profond de lui-même. Et donc, une approche transversale du psaume 119 permet de mettre en évidence 4 facettes de ce cri que le psalmiste fait monter vers Dieu. Et la première facette, le psalmiste crie à Dieu, « Voici qui tu es. » C'est intéressant parce que ça va faire écho à ce qu'on a vécu dans la première partie de ce culte. C'est une véritable confession de foi qui est présente dans ce psaume. Le psalmiste va par exemple décrire les conditions dans lesquelles il vit. Je cite différents versets. Hein. Ta bienveillance, ô Éternel, remplit la terre. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont affermi. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as affermi la terre et elle subsiste. Ou encore, toutes mes voies sont devant toi. Il va aussi dire à Dieu qui il est pour lui, avec les versets suivants. Il dira, je suis à toi. C'est toi mon asile et mon bouclier. Il dira aussi, tu es mon Dieu. Tu es proche, ô Éternel. Le psalmiste va également dire, ô combien il est émerveillé par l'Éternel et par sa parole. Avec ces versets, par exemple, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ou encore, ta parole est la vérité. Le psalmiste aussi, en décrivant qui est l'Éternel, il le décrit comme celui qui est juste et qui vient pour juger le mal. Il dira, tu menaces les présomptueux maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Tu repousses tous ceux qui s'égarent loin de tes prescriptions car leur tromperie est sans effet. Tu élimines comme des scories tous les méchants de la terre. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont droits. Dans toutes les listes que nous lirons ce matin, je ne suis pas exhaustif. J'ai sélectionné seulement quelques-uns des versets, mais ce n'est pas exhaustif. En ayant dit tout cela, le psalmiste aussi décrit l'Éternel comme étant miséricordieux envers lui-même et aussi qu'il compte sur sa grâce, sur la grâce de Dieu, comme on en a parlé dans la première partie de ce culte aussi. Il va dire au verset 26, « Je raconte mes voies et tu me réponds. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Tu fais du bien à ton serviteur Éternel selon ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Tu m'enseignes tes prescriptions. » Après que le psalmiste ait dit à 8 reprises, « Enseigne-moi », il dira à la fin, au verset 171, « Tu m'enseignes ». 8 fois avant, il lui a dit « Enseigne-moi ». Est-ce que nous sommes sensibles à des phrases comme toutes celles que nous venons de lire quand nous lisons le psaume 119 ? Imaginez si le psalmiste avait été avec nous tout à l'heure dans la première partie de ce culte, tout ce qu'il aurait pu dire aussi. Et d'ailleurs, il y a l'une ou l'autre chose que nous avons dite aussi dans cette liste de qui est Dieu pour nous. Si nous lisons le psaume 119 un peu rapidement, nous allons en ressortir avec un résumé comme « Ce psaume parle de la parole de Dieu ». Mais si nous prenons le temps de nous arrêter strophe après strophe sur tout ce qui est dit, alors ce psaume nous amènera à dire les choses un peu autrement et de nous adresser à Dieu en lui disant « Oh combien je t'aime !» « Oh, combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es fidèle, oh, combien je veux t'appartenir. Je suis à toi, Éternel, tu es mon Dieu. » Donc, première facette, le psalmiste crie à Dieu, « Voici qui tu es. » Deuxième facette, le psalmiste crie à Dieu, « Voici mes luttes. » Il partage ses luttes, ses angoisses, ses souffrances. D'une part, les luttes qui découlent de son être intérieur, de par le fait qu'il est pécheur, il reconnaît ses fautes, ses manquements, mais aussi, d'autre part, la lutte et la souffrance qu'il atteigne de l'extérieur. Concernant ses luttes intérieures, du péché qui le ronge et qui l'amène à dire à Dieu ses luttes, ses doutes, ses angoisses, il y a comme un encadrement dans le psaume entre le verset 8, qui est le dernier verset de la première strophe, et puis le tout dernier verset du livre, enfin du livre du psaume, qui dit « Je veux observer tes prescriptions, ne m'abandonne pas entièrement. Je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. » Il y a cette intention sincère ici du psalmiste d'observer les prescriptions de Dieu, mais en même temps il reconnaît qu'il n'y arrivera jamais parfaitement. Alors, ne m'abandonne pas, Seigneur. Et à la fin du psaume, il est comme une brebis perdue et il demande à Dieu, cherche-moi, je ne t'oublie pas, je n'oublie pas tes commandements. Le psalmiste est sur un chemin de crête. D'un côté, il sait le bonheur qui découle pour ceux qui intègrent dans leur voie, qui sont intègres dans leur voie, et qui s'efforcent de marcher dans les plans de Dieu, selon la loi de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'il affirme dans les 2 premiers versets du psaume. Et puis d'un autre côté, il sait aussi ce qu'il vit intérieurement avec ses luttes, son péché. Il est lucide et il se pose des questions, mais Dieu va-t-il m'abandonner ? Dieu va-t-il finir par s'éloigner de moi du fait de mes manquements ? Dieu va-t-il me répondre ? Ça ressort de plusieurs versets où on sent qu'il y a une certaine fébrilité chez le psalmiste. Il dit au verset 75, « Je reconnais, Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Ma chair frissonne de la peur que tu m'inspires et j'ai la crainte de tes jugements. » Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. » Ou encore au verset 145, « Je t'invoque de tout mon cœur. Réponds-moi, Éternel. » Le psalmiste fait face à la réalité de son être intérieur et du péché qui le ronge. Mais pas seulement cela, il fait mention aussi de ses luttes, de ses ennemis qui viennent de l'extérieur pour l'assaillir. Ça ressort de versets comme cela, « Des présomptueux me chargent de railleries, des présomptueux creusent des fosses devant moi, on me persécute à tort, des méchants m'attendent pour me faire périr, des princes me persécutent sans cause. » Que faire devant tout cela? Que faire devant ces luttes? Et bien maintenant, dans cette troisième facette, le psalmiste crie maintenant à Dieu. « Voici mes besoins. » Il appelle à l'aide. Et ce sont pas moins de 80 appels à l'aide dans ce psaume. Face à la souffrance, à l'épreuve, bon nombre de personnes auraient tendance peut-être à se replier sur elles-mêmes pour compter sur leurs propres forces, pour trouver par elles-mêmes des solutions à leurs problématiques. D'autres peut-être se replieraient contre Dieu et se mettraient à lui en vouloir, à lui demander des comptes. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive cela? Ou alors face à leurs propres péchés, des personnes qui se mettraient à désespérer d'elles-mêmes, à s'en vouloir à tel point qu'elles tomberaient dans une spirale infernale. Et tout cela conduit souvent ces personnes à prendre de la distance d'avec Dieu. Eh bien, l'auteur du psaume 119, quant à lui, il vient à Dieu pour lui demander sa grâce, sa miséricorde pour son péché à l'intérieur de lui-même, et aussi pour lui demander son aide face à tous ses ennemis qui l'assaillent de l'extérieur. Le psalmiste fait preuve d'humilité. Il crie son besoin de Dieu et de sa parole pour le guider. Il ne veut pas affronter la vie et essayer de se débrouiller tout seul. Non, non, non. Il va prier Dieu de lui venir en aide. N'ayons pas peur de dire à Dieu nos craintes, de dire nos doutes, nos angoisses, lorsque nous ne savons pas aller dans quelle direction nous allons, lorsque nous perdons pied. Prenons exemple sur l'auteur de ce psaume 119, qui, comme on peut le voir dans tous les versets que je vais afficher maintenant, devant le constat de son péché intérieur, lui qui veut être malléable entre les mains de Dieu, il dira « Enseigne-moi tes prescriptions ». Et vous avez là toutes les références où il est question de cet « Enseigne-moi » ou encore « Fais-moi comprendre la voie de tes statuts ». Au verset 27 et tous les autres versets mentionnés ici aussi. Lui, le psalmiste qui peut facilement passer à côté de ce que l'Éternel révèle dans sa parole, il lui demande « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je ne passe pas à côté de ta parole. » Lui qui est facilement préoccupé par les mauvaises choses, il dit à Dieu « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Ou encore dans le verset suivant, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. » Ou encore le psalmiste qui sait son péché intérieur, qui reconnaît ses fautes, il dit au verset 58 « Je t'implore de tout mon cœur. » Fais-moi grâce selon ta promesse. Ou encore au verset 133, ne laisse aucune injustice dominer sur moi. Devant le constat des souffrances qui peuvent cette fois-ci lui venir de l'extérieur, on va trouver des versets et des demandes à Dieu comme celle-ci. Au verset 78, « Qu'ils soient couverts de honte, les présomptueux qui à tort me maltraitent. » Ou encore, « Mon âme languit après ton salut. Je m'attends à ta parole. Secours-moi, sauve-moi. Vois mon malheur et délivre-moi. Défends ma cause. Je mets mon espoir en ton salut, ô Éternel. Je soupire après ton salut, ô Éternel. » Si le psalmiste peut dire tout cela, crier à Dieu tout ce qu'il dit là, c'est précisément parce qu'il sait à qui il s'adresse. Il s'adresse à l'Éternel dont on voit cette première facette qu'on a vue tout à l'heure. Il dit « Voici qui tu es, je sais qui tu es. Tu es ce Dieu bon, fidèle, grand, tout-puissant. » Et il nous dit à nous, le psalmiste aujourd'hui, de faire pareil. Je peux lui dire tout cela parce qu'il m'entend. Dieu m'entend, Dieu nous entend, il se soucie de nous. L'Éternel entend nos besoins. L'Éternel se soucie de ses créatures. Ne doutons jamais de cela. Une recommandation que j'aimerais vous faire, lorsque nous lisons la Bible, méditons sur tout ce que nous pouvons apprendre sur la personne de Dieu. Le Père, le Fils, l'Esprit, le Dieu trinitaire. C'est parce que précisément le psalmiste du psaume 119 sait à qui il s'adresse qu'il peut s'exprimer comme il le fait ici, comme nous avons relevé quelques exemples. À partir du début du mois d'octobre, dans les formations du samedi, nous reprendrons avec les formations sur les fondements de la foi et nous commencerons avec la doctrine de Dieu. Qui est Dieu ? Alors oui, on sait qui est Dieu, je pense que nous savons qui est Dieu, mais quels sont les attributs de Dieu ? Qu'est-ce qui caractérise Dieu ? Pourquoi nous avons toute raison de nous tourner vers lui et pas vers je ne sais qui d'autre. Mais c'est parce que nous savons qui est Dieu. Donc, apprenons toujours plus. Quand nous lisons sa parole, posons-nous la question, qu'est-ce que ce texte m'apprend sur la personne du Dieu trinitaire ? Père, Fils, Esprit. Le psalmiste donc crie à Dieu, « Voici qui tu es, voici mes luttes, voici mes besoins » et pour finir, il vient à Dieu et lui dit « Me voici » comme une réponse à tout ce qu'il vient de faire. Il ne va pas uniquement compter sur Dieu et sur son secours, mais tout en venant à Dieu, il est conscient aussi que ça l'engage lui-même à être disponible pour Dieu. À être disponible devant Dieu. Et elles sont très nombreuses les affirmations où on voit le psalmiste s'engager devant Dieu. Ça ressort tout au long du psaume et j'ai 4 diapos à vous montrer et là encore je ne suis pas exhaustif mais j'ai voulu le mettre un peu plus en avant ce côté-là parce que c'est vraiment important et ça ressort. Puisse mes voies être bien réglées afin que j'observe tes prescriptions. Je veux observer tes prescriptions. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta promesse ou ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je garde tes statuts. Je choisis la voie de la fidélité. Je me conforme à tes ordonnances. Je m'attache à tes préceptes. Je cours dans la voie de tes commandements. Je me confie en ta parole. J'observerai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je ne dévie pas de ta loi. Je n'oublie pas ta loi. Je crois à tes commandements. Maintenant, j'observe ta parole. Moi, je médite sur tes statuts. Je n'oublierai jamais tes statuts, car par eux, tu me fais vivre. Je suis à toi. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour ma méditation. Je retiens mon pied loin de toute mauvaise voie afin d'observer ta parole. Je jure et je le tiendrai d'observer les ordonnances de ta justice. Et une dernière diapo, j'incline mon cœur à pratiquer tes prescriptions toujours jusqu'à la fin. Je garde les commandements de mon Dieu. Je suis ton serviteur. J'aime tes commandements plus que l'or, même que l'or fin. Et tout à la fin du psaume, dans le dernier verset, je n'oublie pas tes commandements. Crier à Dieu, c'est une chose qui a sa place dans notre intimité, dans notre cœur à cœur avec Dieu. Mais cela n'empêche pas qu'il nous faut aussi nous engager, nous impliquer avec Dieu. Et c'est intéressant dans ces 4 diapos que nous venons de voir ici, de réfléchir, de méditer sur les verbes que le psalmiste utilise. J'observe, je te cherche, je choisis, je m'attache, je cours, je me confie, Je ne dévie pas, je n'oublie pas, je médite, j'aime, je retiens, je jure, je tiendrai. Ce sont des verbes d'action, des verbes qui l'impliquent, qui nous impliquent. Aussi difficile soit le chemin, le psalmiste nous dit ici que les épreuves ne doivent pas nous faire baisser les bras. On le voit dans les versets que j'affiche maintenant. « Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. Ma vie est continuellement exposée, mais je n'oublie pas ta loi. Écartez-vous de moi, méchant, afin que je garde les commandements de mon Dieu. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, je ne dévie pas de tes préceptes. Je mets mon espoir en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. » Tout en criant à Dieu, l'auteur de ce psaume s'implique, s'engage et dit à Dieu : « Me voici, je suis disponible. » Nous avons là un encouragement à ne pas, à ne jamais baisser les bras, même dans les heures les plus sombres. Même quand, et ça m'a frappé aussi dans ce psaume, j'ai jamais eu autant d'insomnie que les trois dernières années. Et soyez rassurés, je ne pense pas que ça ait de lien avec le fait qu'on ait déménagé à Nîmes. Je sais pourquoi en fait, mais ça n'a rien à voir avec l'église de Nîmes. Et j'imagine que parmi nous, il y a des personnes qui ont régulièrement des insomnies aussi, parfois pendant des nuits complètes même. Si c'est le cas, sachez que nous ne sommes pas seuls. L'auteur de ce psaume aussi. À quatre reprises, il mentionne le fait d'être éveillé pendant la nuit. Verset 55. « La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et j'observe ta loi. » Au milieu de la nuit, je me lève pour te célébrer. Je devance l'aurore et je crie, je m'attends à ta parole. Mes yeux devancent les veilles de la nuit pour méditer ta promesse, ta parole. L'insomnie, quand elle arrive, une nuit, deux nuits, ça va, on s'en remet. Mais quand ça devient quelque chose de régulier, ça devient assaillant, harassant, terrassant. Et je nous invite à nous poser la question de ce à quoi nous pensons lorsque nous sommes terrassés dans nos nuits, lorsque nous avons du mal à trouver le sommeil, ou même dans des moments de la journée. Parfois on a des nuits très bien, et tant mieux si c'est le cas, mais parfois même dans nos journées, on a du mal à trouver notre concentration, à être à ce que nous faisons. Qu'est-ce qui, dans tous ces moments-là, qu'est-ce qui est au cœur de nos pensées? Est-ce que vous êtes en train de penser aux journées qui ont précédé, à refaire toute l'histoire, à vous demander pourquoi j'ai échoué ici, échoué là? Inversement, est-ce que vous êtes en train de penser au lendemain, à vouloir essayer de tout anticiper, les possibles problématiques qui pourraient se présenter à vous au réveil dans la journée à venir? Est-ce que peut-être pour éviter de voir une certaine réalité en face, vous êtes en train de vous projeter dans vos loisirs, dans vos rêves, dans vos prochaines vacances, ou de revenir sur les vacances précédentes qui vous ont fait du bien? Un peu comme une fuite de la réalité. Ou inversement, vous revenez justement sur ce qui fait vos craintes, vos angoisses, une maladie qui vous ronge, une solitude qui vous isole toujours davantage, une problématique financière. Comment est-ce que je vais finir la fin du mois? Comment est-ce que je vais résoudre cette relation conflictuelle avec telle ou telle personne? Que sais-je encore? Dans toutes ces tentatives que je viens d'évoquer, il y a une chose qui manque cruellement, c'est la personne de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le psaume 119 décrit ici dans ces quelques versets qui sont affichés, mais aussi dans l'ensemble du psaume, décrit des heures, des journées passées dans la présence de Dieu. Ce psaume 119 ne nous garantit pas de trouver le sommeil. Peut-être que si on commence à le lire, on va finir par trouver le sommeil, vers le verset 140, ou peut-être. Mais plus sérieusement, il ne nous garantit pas de trouver le sommeil, le repos pour notre âme. Par contre, il permet de transformer ces moments où nous sommes préoccupés, ces moments où nous n'arrivons pas à dormir, de les transformer en moments qui sont passés dans la présence de Dieu. Le psaume 119 invite à méditer la parole de Dieu. Nuit après nuit, le psalmiste se souvient, repense, prie la parole de Dieu. Il dit même sa joie face à la parole de Dieu. Interrogeons-nous chacun pour nous-mêmes. Dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai besoin peut-être d'être repris ce matin? Est-ce dans ces moments où je n'arrive pas à trouver le sommeil pendant mes nuits? Est-ce lorsque je suis rongé par l'inquiétude devant la peur de l'avenir, devant la peur d'un diagnostic médical, devant la peur du « qu'en dira-t-on ?» ou dans un domaine relationnel, une relation qui vous fait souffrir à cause d'une trahison, ou suite à la rupture d'une relation, ou une absence de relation, en particulier sur le plan sentimental. Une relation avec un enfant, avec un petit enfant qui vous préoccupe. À chacun de nous, dans notre cœur à cœur avec Dieu, d'identifier le ou les domaines où l'on perd pied, où le sol se dérobe sous nos pas. Et dire comme l'auteur de ce psaume 119, excusez-moi, je suis allé un petit peu trop loin, de dire « me voici ». Je suis à toi. Enseigne-moi par ta parole. Aide-moi par ta main puissante, souveraine. Viens me sauver, parce que toi seul es capable de le faire. Ce psaume décrit un cheminement intérieur que le psalmiste vit avec authenticité. Il est authentique. Il décrit le mal qui le ronge intérieurement, le mal qui le ronge extérieurement. Il est authentique aussi avec l'Éternel, il l'appelle, il implore son aide. C'est un parcours de vie, avec des hauts et des bas, avec des bons moments et puis des moments plus difficiles à vivre. Et on voit en fait tous ces moments qui sont en train de s'entrelacer dans ce psaume 119. Et il y a quelque chose que je trouve assez remarquable à remarquer, quelque chose d'assez remarquable à remarquer. C'est pas mal ça. Bref, quelque chose que l'on trouve dans les deux strophes qui sont au centre du psaume. Donc il y a 22 strophes, les deux strophes au centre, c'est la strophe numéro 11 et la strophe numéro 12. Dans le cheminement du psalmiste, quand on arrive au milieu du psaume, on a l'impression qu'il touche le fond. On a l'impression qu'il est dans les heures les plus sombres pour lui, c'est désespéré au plus haut point. Je lis la 11e strophe. Mon âme languit après ton salut, je m'attends à ta parole. Mes yeux languissent après ta promesse, je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie pas tes prescriptions. Quelle est la durée de la vie de ton serviteur? Quand exerceras-tu le jugement contre mes persécuteurs? Des présomptueux creusent des fosses devant moi, ce qui n'est pas conforme à ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. On me persécute à tort. Secours-moi. Pour un peu, l'on m'aurait exterminé, et moi je n'abandonne pas tes statuts. Fais-moi vivre selon ta bienveillance, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. » Et dans ce cheminement, arrivé là, à la moitié du psaume. On est avec ce verset 88, vraiment au milieu du psaume. Eh bien, on observe un revirement avec la strophe suivante, la 12e strophe, que je lis maintenant. « À toujours, Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as affermi la terre et elle subsiste. C'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car toutes sont à ton service. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans mon malheur. Je n'oublierai jamais tes statuts, car par eux tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes statuts. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois une fin à tout ce qui est parfait. Ton commandement est d'une ampleur sans limite. » Là où dans la strophe d'avant, il disait « Mais combien de temps encore j'ai devant moi? Quand est-ce que tu vas me consoler ?» Et là, il y a un revirement maintenant. « J'aurais péri si je n'avais pas fait de ta loi mes délices. Je n'oublierai jamais tes statuts parce que par eux, précisément, tu me fais vivre. » Il revient à l'essentiel. Il est au fond du trou, mais il en ressort en regardant à Dieu. Comme on l'a vu dans la première partie du culte aussi, où on est invité à fixer notre regard vers Dieu, vers Jésus, notre Sauveur. Il est fidèle, l'Éternel, de génération en génération, on le lit aussi ici. Il dit aussi, le psalmiste dit aussi son désir de rechercher, de ne jamais oublier la parole de Dieu parce qu'elle subsiste à toujours. Ou encore au verset 96 ici, elle est d'une ampleur sans limite. Là où les hommes ont des choses même parfaites, eh bien ça a quand même une fin. Mais le commandement de Dieu est d'une ampleur sans limite. Si toute la vie du psalmiste est présentée dans le psaume 119, il y a là au cœur même du psaume avec ses strophes 11 et 12, il y a ce désespoir intérieur qu'il traverse et qui donne lieu à ce revirement, à cette profession de foi à l'Éternel dans cette 12e strophe ici. Et ça ne veut pas dire, vous le remarquerez facilement, qu'à partir de la 13e strophe et jusqu'à la fin, tout va bien. La preuve que non. Il y a encore des épreuves, il y a encore des difficultés, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier verset. Mais il y a ce revirement qui nous dit que nous pouvons compter sans réserve sur l'Éternel, même dans nos nuits les plus sombres. Je ne sais pas, nous ne savons pas de quoi l'année 2025-2026 sera faite. Mais quoi qu'il arrive, l'auteur du psaume 119 nous dit ici que au milieu de la détresse, il y a de l'espoir. Au sein des ténèbres, il y a un chemin qui mène à la lumière. Dans l'épreuve, on peut compter sur l'Éternel qui se révèle dans sa parole. Et dans cette vie-là, dans cette vie où s'entrelacent les hauts et les bas, les bons moments et les moments qui sont plus difficiles, nul doute d'une chose, c'est que le psalmiste expérimente ce qu'il dit dans les deux premiers versets du psaume et que j'affiche ici. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Et le verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Si le psalmiste ouvre ce psaume 119 avec cette double béatitude ici, heureux, heureux, c'est bien parce qu'il est pleinement convaincu que le vrai bonheur se trouve en Dieu et en sa parole. Le psalmiste vit aussi cela dans sa vie et c'est pourquoi à plus de 40 reprises dans le psaume, il se réjouit, il prend plaisir, il rend grâce à Dieu. Il affirme des choses comme celles que j'affiche ici. Je me réjouis en suivant tes statuts, comme si je possédais toute richesse. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. Je fais mes délices de tes commandements que j'aime. Et encore une dernière diapo. Moi, je fais mes délices de ta loi. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, même que l'or fin. Je me réjouis de ta promesse, comme celui qui trouve un grand butin. Oui, définitivement, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Amen.